Les chiffres de l'antisémitisme 2020 viennent d'être publiés par le SPCJ, le service de protection et de la communauté juive du CRIF. Et pour nous en parler aujourd'hui, Ron Refaeli, le président délégué du SPCJ. Ron Refaeli, bonjour.
Alors bonjour, je me permets juste de compléter le service de protection de la communauté juive et l'émanation de trois institutions centrales que sont effectivement le CRIF, le Consistoire et le Fonds social juif unifié.
Ah bah alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est de présenter le SPCJ qui a été créé en 1980.
Alors le SPCJ est né en 1980 au lendemain de l'attentat de la rue Copernic, dont tout le monde se souvient j'imagine. Et il est le fruit d'une volonté conjuguée de l'ensemble des institutions centrales, donc le CRIF, le Consistoire et le Fonds social juif unifié, d'organiser la protection de la communauté de manière concertée entre ces institutions et concertée également avec les pouvoirs publics qui ont accompagné cette création et ce développement dans le cadre d'une coopération qui n'a fait que se renforcer depuis une quarantaine d'années et dont la dernière nouvelle coopération en date, on peut le dire, concerne justement depuis plus d'une vingtaine d'années le recensement des communs des actes antisémites et l'accord sur une méthode. Vous évoquiez ces chiffres tout à l'heure.
Oui.
Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que il faut garder en tête que ces chiffres ne représente qu'une partie des actes antisémites commis sur le territoire français, puisque c'est la partie des actes qui ont donné lieu à une plainte. Ce n'est pas le cas de tous les actes, on le sait bien, on l'a vécu autour de nous souvent. Il y a des personnes qui renoncent à déposer plainte, soit par peur des représailles, soit parce qu'elles ne croient pas que la plainte pourra aboutir à une quelconque identification des auteurs ou condamnation des suspects, soit dans une sorte de phénomène d'habituation, c'est-à-dire que les actes ont été de plus en plus graves et ont atteint leur paroxysme avec des attentats terroristes, et donc quelqu'un qui était victime d'une injure ou parfois d'une agression sans beaucoup de dommages corporels va pour cette raison peut-être renoncer à déposer une plainte. Nous nous sommes accordés, alors nous accompagnons évidemment toutes les victimes, y compris celles qui ne déposent pas plainte, bien entendu.
Oui.
Mais nous nous sommes accordés avec le ministère de l'Intérieur pour apprécier le phénomène de manière cohérente et commune à ne recenser que les actes qui ont donné lieu à une plainte. Donc on sait que ce n'est pas l'exhaustivité.
Donc elles sont forcément en deçà de la vérité.
C'est en deçà de la vérité. En revanche, comme à effort constant et à méthode constante, on enregistre ces chiffres, on peut considérer qu'on peut appréhender des tendances. Donc on sait lorsque les choses, la manière dont les choses évoluent, mais le chiffre ne représente pas l'exhaustivité.
Alors le nombre total d'actes antisémites en 2020 que vous venez de publier est de 339, une baisse par rapport aux années précédentes. On dénombrait 687 actes en 2019 et 541 en 2018. Le confinement de plus de 3 mois, y est pour quelque chose ?
Alors évidemment le confinement, mais ça va bien au-delà, c'est le confinement et une diminution drastique des activités communautaires. En dehors des écoles qui ont continué de fonctionner hors confinement, la plupart des installations communautaires, alors certaines pour les culturels, ont complètement fermé leurs portes, il n'y a pas d'activité culturelle. D'autre part, pour les synagogues, il y a des jauges qui font qu'il y a une fréquentation bien moindre. Et enfin, l'événementiel privé, tous les mariages qui n'ont pas lieu, toutes les célébrations de bar mitzvah qui n'ont pas lieu. Je parle pas de la partie religieuse, je parle de la partie événementielle vraiment festive, mais qui draine là aussi des publics, des gens dans les rues, identifiables, etc. Donc cette diminution drastique, en réalité, est au-delà de 50% et aurait dû conduire à une baisse beaucoup plus importante. Et là où nous sommes particulièrement préoccupés, comme nous l'avons signalé dans notre communiqué, c'est que les agressions violentes, elles, ne sont pas du tout en baisse. On est sur un niveau quasiment identique à l'année 2019, avec 44 agressions violentes contre 45 en 2019.
Des agressions
malgré
physiques
ces 3 mois de confinement. Oui. Ce qu'on appelle agression violente, c'est des agressions physiques, c'est pas des intimidations ou des menaces, c'est des agressions physiques. Et si vous voulez, là, on comprend qu'en réalité, elles auraient dû diminuer de plus de la moitié et elles se maintiennent à un niveau constant. Ce qui signifie, sans vouloir faire de projections sur ce qui n'a pas eu lieu, mais ce qui signifie quand même qu'on peut imaginer que sans confinement, Et sans baisse des activités communautaires, on aurait été témoin d'une très forte augmentation du nombre d'agressions physiques violentes en 2020. Et la raison pour laquelle on l'évoque et on le souligne, c'est que une grande partie, même si on continue de les recenser, mais une grande partie des actes que nous recensons dans la catégorie menaces, notamment qui font référence aux injures, aux menaces, aux inscriptions, une grande partie de ces actes, en réalité aujourd'hui, se passent sur Internet et pas sur la voie publique. Donc, si vous voulez, celui qui prend aujourd'hui un papier, un stylo et qui écrit sale juif et qui le poste à quelqu'un, on va dire qu'il n'est pas tout jeune et on n'en trouve pas beaucoup. Aujourd'hui, l'insulte sale juif qu'on pouvait recenser à la fin des années 90 dans les courriers et les institutions communautaires étaient d'ailleurs familières du nombre d'un certain nombre de courriers qu'elles recevaient de ce genre. Aujourd'hui, elles se passent sur Internet et c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'occurrences qu'on peut trouver de ces insultes-là. Et ce qui se passe sur Internet n'est pas recensé dans les actes qu'on donne ici, puisque ce ne sont que des actes qui ont donné lieu à une plainte, et dans la quasi-totalité des cas, les gens ne déposent pas plainte pour un commentaire ou un mail antisémite qu'ils reçoivent.
Oui, on se souvient du flot d'insultes dont a été victime Miss Provence le soir de l'élection de Miss France. Des comptes ont été fermés, c'est le seul moyen d'action. On ne peut pas remonter forcément à la personne qui tient ce compte.
Alors, je dirais que les plateformes ont peut-être des moyens qu'elles ne mettent pas à disposition. Il suffirait, comme pour d'autres plateformes, notamment les plateformes de banque à distance, qu'on oblige pour la création d'un compte à un contrôle et au dépôt d'une pièce d'identité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et les plateformes n'ont pas d'intérêt à le faire parce que ça freinerait le nombre d'inscrits. En revanche, si elles décidaient d'avoir une vraie responsabilité et de l'exercer, effectivement, ça pourrait être un moyen en disant qu'il y a une vérification d'identité, comme une banque en ligne vous le demande aujourd'hui quand vous créez un compte. Vous pouvez le créer sans vous déplacer, mais vous devez fournir un justificatif d'identité. Vous devez fournir une petite vidéo de quelques secondes qui permet de vous identifier et de s'assurer que c'est bien vous, et passer par un process de contrôle. Forcément, ça limite le nombre de gens qui s'inscriront. À mon sens, ça ne limite pas la liberté d'expression normale. Vous pouvez continuer de vous exprimer dans le cadre de ce que permet la loi. Aujourd'hui, les méthodes des plateformes fait que vous pouvez vous exprimer anonymement en dehors de ce que permet la loi. Alors, il y a cette mesure à la fin de fermeture d'un compte, mais vous conviendrez qu'il s'agit d'une mesure a posteriori qui n'empêche pas les propos de se tenir. C'est juste qu'on bride ce compte-là et qui va être, on le sait, recréé quelques minutes plus tard sous un nouveau pseudonyme.
Vous dénoncez également les thèses complotistes, encore plus aujourd'hui en cette période de crise sanitaire.
Oui, c'est effectivement, on l'a vu là encore, vous avez cité le flot de commentaires antisémites lors de l'élection de Miss France. Il y a un flot, lui, qui a continué sans s'interrompre depuis le début de l'année, qui existait déjà mais qui s'est largement renforcé. C'est le flot des commentaires complotistes qui sont, dans une très grande majorité, très vite associés à des thèses antisémites, puisque dans la logique, dans le logiciel complotiste, l'antisémitisme tient une place et le fantasme du juif tient une place de choix. On peut aller jusqu'à dire sans prendre de risque, on peut être antisémite sans être complotiste, mais on ne peut pas être complotiste sans être antisémite, tant le juif est central dans le fantasme complotiste. Donc effectivement, il y a une prolifération de thèses qui désignait les juifs comme les instigateurs de la crise mondiale du Covid. On n'est pas prêt de voir ces thèses s'interrompre, qu'on a une tradition. Alors, les complotistes, il y en a partout dans le monde, mais il y a une tradition française du complotisme qui traverse tous les courants. Si dans certains pays, on va trouver des complotistes à l'extrême droite uniquement, en France, on va les trouver aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et même des islamistes radicaux ont fait l'heure des thèses complotistes sans chercher très loin. Alors dans le temps, oui, mais sans chercher très loin, je veux dire en termes de complexité, les protocoles des sages de Sion ont inspiré et continuent dans leur contenu d'inspirer aussi des islamistes radicaux.
L'éducation comme rempart, et pourtant là aussi, on relève des manques avérés, comme dans l'enseignement de la Shoah au collège ou au lycée.
Oui, on a rappelé quelques études qui ont été menées à la fois par l'UEJF et par l'American Jewish Committee, à chaque fois avec l'IFOP. Ces études ont montré, les uns et les autres l'ont fait savoir à l'époque, mais un certain nombre de données qu'on a voulu reproduire ici pour contextualiser justement cette haine antisémite et ces délires complotistes et sur l'enseignement de la Shoah. C'est un jeune sur 10 qui dit avoir eu un professeur d'histoire qui ne pouvait pas enseigner la Shoah en classe. Un jeune sur 5 qui a été confronté à plusieurs élèves qui remettent en cause la véracité du génocide juif. Cette remise en cause, ça fait partie du complotisme. Ça fait partie des thèses complotistes habituelles, des thèses complotistes modernes, à la différence des protocoles des sages de Sion, mais qui s'appuient sur les mêmes dynamiques, c'est les Juifs mentent pour obtenir telle chose.
Alors on va revenir sur Strasbourg et les chiffres qui touchent notre région et l'antisémitisme. Vous avez des différences par rapport aux chiffres nationaux ?
Alors c'est difficile effectivement d'avoir une lecture comparative parce que les choses ne se comparent pas. Donc si vous voulez, on a une photographie de chaque région et on peut extraire de notre base de données un certain nombre de comparatifs. Sur Strasbourg, on peut dire, sur l'Alsace en général, on peut dire qu'il y a eu deux faits de violence en 2020 et qu'on n'en avait pas recensé en 2019. Mais si vous voulez, ça ne va pas donner dans ce niveau d'analyse, ça ne va pas donner une lecture très fine en termes de comparaison avec le reste. Pour le total, si on peut observer qu'effectivement, on en a aussi moitié moins. Mais vous voyez que pour les violences, on peut considérer que si au niveau national, on a le même nombre de violences que l'année d'avant, pour l'Alsace, on a deux faits de violence alors qu'on n'en avait aucun l'année précédente. Oui. Je peux vous en citer un fait de violence. Le 16 février à Strasbourg, un homme de confession juive portant une kippa et des tzitzit a été pris à partie par deux individus. L'un d'eux l'a saisi au col, répétant à plusieurs reprises « Tu m'as mal regardé, ne relâchons pas son emprise. » Ce dernier lève la main pour le frapper la victime. Son ami le retient, l'agresseur lui demande si la victime est juive. La victime répond par la positive et réussit à se dégager et à prendre la fuite. Voilà, ça c'est un des faits de violence qu'on peut recenser. Vous avez aussi des faits de dégradation et de vandalisme. Effectivement, là, on peut regretter une spécialité, entre guillemets, pour la région Est, avec des profanations et des inscriptions qui sont souvent plus nombreuses que ce qu'on trouve sur le reste du territoire, mais qui trouvent aussi leur explication, j'imagine, à la fois dans l'existence de cimetières juifs isolés du reste et peu fréquentés, et à la fois dans l'ancrage de certains groupuscules ou idéologies d'extrême droite plus présentes dans l'Est de la France qu'ailleurs, même si on en trouve partout.
Pour se procurer et pour consulter ce rapport, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?
Alors, antisémitisme.fr, tout simplement. Sur ce site, vous trouvez, ce dernier communiqué avec les chiffres, mais vous trouvez l'ensemble des rapports sur l'antisémitisme publiés depuis que nous les rendons publics. C'est-à-dire, je crois, depuis 2006. Certains sont disponibles en plusieurs langues. Là, ce que nous avons évoqué ce matin, ce sont les chiffres de l'antisémitisme, mais qui donnent lieu, d'ici quelques semaines, à la publication d'un rapport plus complet qui analyse région par région, typologie par typologie, et où on retrouve également un certain nombre d'analyses et de commentaires par des contributions de différents sociologues, intellectuels qui travaillent sur ces questions et notamment sur les questions d'éducation que vous évoquiez tout à l'heure.
Ron Refaeli, président délégué du SPCJ, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous. Merci, bonne journée.